BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec.
Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus, mais c'est aussi la saison de la déclaration des impôts. Et oui, mais on est là pour vous. Tout ce que vous devez savoir sur la fiscalité des cryptos en 2024, c'est maintenant sur BFM Crypto. Pour ça, Alexandre Lourimi, avocat associé chez Orwell Avocat, est au téléphone avec nous et répondra à toutes vos questions. Bonjour Alexandre. Et puis, vous voulez être dans le secret du fisc, savoir comment ça marche, comment se fait-on repérer par le fisc lorsqu'on n'a pas déclaré ses plus-values, y a-t-il des moyens de limiter les alertes des banques à votre sujet, quels sont les moyens à disposition du fisc d'une manière générale, est-ce que vous, vous tous, vous pouvez faire l'objet d'une enquête? Pour vous expliquer, il a enquêté, le cofondateur et directeur de la recherche de The Big Way est avec nous. Bonjour Grégory.
Salut Amaury.
Grégory Raymond. Mais d'abord, on va commencer avec Alexandre, qui, je le disais, est en ligne avec nous. Alexandre, pour commencer, on va reprendre un petit peu les bases. C'est quoi le régime fiscal appliqué aux plus-values en crypto chez nous, en France?
Bonjour Amaury, bonjour Grégory.
Alors, on vous entend pas très bien, Alexandre. On va peut-être essayer de vous recontacter sur un autre numéro de téléphone que normalement la régie a. Voilà, vous nous dites quand vous êtes de retour, mais là, on vous entend pas très bien. On va commencer avec Grégory, pour le coup. Donc, Grégory, avec vous, on va s'intéresser au fisc. On va soulever un petit peu le capot du fisc, voir un petit peu comment tout cela marche. Dans quelques instants, on reviendra sur comment, évidemment, déclarer vos cryptos cette année en 2024. Mais d'abord, Grégory, comment est-ce que, tout simplement, le fisc repère les personnes qui n'ont pas déclaré leur crypto?
En fait, bien souvent, l'alerte, elle est donnée par les banques. Pas vraiment par les plateformes d'échange. Bon, bien sûr, si vous avez des activités qui peuvent être liées au financement du terrorisme, une plateforme d'échange peut donner l'alerte. Mais souvent, en fait, ça vient de la banque. C'est au moment où, en fait, vous voulez encaisser vos euros gagnés en faisant du trading de crypto. Et en fait, si la somme que vous virez sur votre compte, elle est différente des sommes que vous avez l'habitude de recevoir, en fait, via votre compte bancaire, bah là, la banque va dire c'est bizarre, il y a une activité anormale par rapport à d'habitude.
Donc, et le
va faire
premier
un
point
à TracFin.
Le premier point, c'est vraiment, voilà, si on a une somme inhabituellement importante qui arrive sur notre compte, tout part de là. Hein.
C'est ça. Par exemple, pour quelqu'un qui gagne 3000 euros par mois, s'il reçoit 50 000 euros d'un coup sur son compte, ça va être classé comme une activité anormale. Par contre, quelqu'un qui gagne 50 000 euros par mois et qui reçoit un virement de 50 000 euros par mois, ça va pas déclencher des alertes particulières. En fait, c'est vraiment à la carte de chaque contribuable, de chaque client de banque. Et donc, voilà, après, le dossier part chez TracFin, donc l'agence française en charge de la lutte contre le blanchiment de fonds et le financement du terrorisme. Souvent, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose de lié à ça. Et en fait, le dossier arrive après chez le fisc. Et c'est là qu'on va regarder plus en détail le dossier du contribuable. Alors, bien sûr, ça peut... Enfin, voilà, il y a tout ça. Mais les banques, en fait, aussi, elles sont, si vous voulez, elles peuvent être... définie comme responsable, en fait, quand il y a une affaire de blanchiment. Donc, en fait, quand elles comprennent que l'argent vient d'une plateforme d'échange crypto, souvent crypto, c'est très sulfureux, hein, venu d'une banque, elle va flaguer tout de suite le contribuable et on se retrouve chez TracFin tout de suite, quoi. C'est comme ça que ça se passe.
Bon, donc ça part des banques, puis après TracFin, puis après vers le fisc. Ouais. Grégory, donc on voit que c'est une somme d'argent potentiellement trop importante par rapport à ce qu'il y a d'habitude. Mais bon, je vous pose la question, mais vous n'êtes pas TracFin, vous n'êtes pas les banques ni le fisc. Non. Mais quand quelqu'un, typiquement, on pourrait se dire, bah, quelqu'un voilà, gagne 50 000 euros, je reprends votre exemple, bah, est-ce que s'il le lisse un petit peu ses retraits sur son compte petit à petit, est-ce que ça, finalement, ça peut être plus difficile à détecter pour le fisc qu'une grosse somme d'un coup?
Je ne vais pas vraiment donner d'astuces pour frauder le fisc, hein, mais c'est sûr que oui, si on veut passer sous les radars, il faut faire en sorte que l'activité sur le compte ressemble à ce qui se passe d'habitude.
Bon, et... Au niveau, donc on a compris qu'en tout cas, la plupart des cas, ça partait des banques. Est-ce qu'on a des moyens pour un peu limiter, entre guillemets, l'alerte des banques, entre guillemets? Alors attention, là, on n'est pas en train de vous donner des astuces pour frauder, mais c'est pour éviter justement des cas où on croit que vous fraudez alors que vous ne fraudez pas.
Alors la banque, en fait, quand elle voit que ça vient d'une plateforme crypto, elle peut vous flaguer. Donc l'intérêt, l'astuce que vous pouvez utiliser, c'est de, par exemple, passer par une structure qui s'appelle Mon Pèlerin, qui est un courtier, en fait, qui est installé en Suisse, et en fait, qui va vous, quand vous allez encaisser vos plus-values en euros, en fait, c'est une banque suisse qui va envoyer les fonds sur votre compte en banque en France. Donc votre banque en France ne verra que le virement d'une banque en Suisse. Donc il n'y aura pas donc l'étiquette crypto qui pourrait faire un peu peur à votre banque. Des solutions comme ça, il y a aussi des solutions chez les startups françaises, donc Coinhouse hein, par exemple, le courtier, ou Desblocs aussi qui s'est lancé plus récemment, propose un compte bancaire en euros, et ce sont des spécialistes des cryptos. Donc eux disons qu'ils vont pas envoyer des signalements à Tracfin juste parce que vous êtes utilisateur de crypto. Ils le feront pour des bonnes raisons et avec des arguments légitimes.
Donc finalement, voilà, passer par ce genre d'acteurs, d'intermédiaires, ça limiterait potentiellement le risque d'alerter pour rien, entre guillemets, les autorités.
C'est bien ça.
On a peut-être retrouvé Alexandre Lourimi, hein, avocat associé chez Orwell Avocat, qui est avec nous. Rebonjour Alexandre, est-ce que vous nous entendez bien ?
Oui, moi je vous entends bien.
On vous entend mieux en tout cas, pour l'instant. J'espère que ça va durer. On est content de vous avoir avec vous parce qu'on a plein de questions à vous poser. Je disais tout à l'heure, petit rappel, c'est quoi pour poser un peu les bases, c'est quoi le régime fiscal de base en France pour les plus-values en crypto, tout simplement ?
Depuis 2019, on a un régime dédié aux cryptos, donc qui s'intègre dans la déclaration de revenus que tout le monde s'apprête à faire. La clôture de la déclaration arrive bientôt, hein, c'est le 23 mai pour les premiers départements, le 30 pour les départements du milieu et le 6 juin pour les départements de Fins et Paris. Et donc, dans le cadre de cette déclaration de revenus, vous allez avoir un feuillet dédié aux cessions d'actifs numériques que vous allez devoir remplir si, en 2023, vous avez fait des cessions d'actifs numériques. Alors, pas toutes les cessions, puisque les échanges entre actifs numériques ne génèrent pas d'imposition, mais si vous avez fait des cessions d'actifs numériques en monnaie et en cours légal, en euros ou en dollars, où vous avez fait des achats en crypto, vous allez devoir déclarer chacune de ces cessions. Et donc, pour chacune de ces cessions, il va falloir déclarer la date, évidemment, de cette cession, son montant en euros, et deux données un peu plus compliquées à retrouver si on ne l'a pas suivi au fil de l'eau, c'est le prix total d'acquisition du portefeuille, tout l'argent qui a été investi dans l'acquisition d'actifs numériques, et la valeur globale du portefeuille à la date de la cession.
Donc, Alexandre, si on résume, ne sont imposables que les cryptos revendus qui sont passés en monnaie fiat, hein, en euros, en dollars, etc. Les transactions entre cryptos sont pas imposées. Les stablecoins, c'est pas imposé parce qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est considéré comme des cryptos. Si une fois qu'on a viré de l'argent sur son compte, à quel pourcentage on est imposé ?
Alors, ça c'est un bon point parce que la déclaration est bien au titre de la cession. C'est-à-dire que même si on a vendu en dollars ou en euros des cryptos sur son compte, sur sa plateforme d'échange et qu'on n'a pas rapatrié l'argent sur son compte, on doit quand même faire une déclaration. Le taux d'imposition, il est de 30% par principe. 30%, c'est la somme de toutes les plus-values et de toutes les moins-values calculées sur chacune des sessions réalisées au cours du même année.
C'est la flat tax, finalement.
Exactement, c'est la flat tax. Et comme en bourse, depuis cette année, c'est la première fois que c'est possible, il est possible d'opter pour le barème progressif. Donc si, compte tenu des montants et des autres revenus imposables, c'est plus intéressant d'être au barème, il faudra cocher une case express et qui est dédiée à cet effet depuis cette déclaration 2024.
Ce que vous nous dites, Alexandre, c'est assez intéressant, c'est que finalement, alors on est imposable que sur les cryptos, les gains cryptos qui sont arrivés sur notre compte en banque, mais il faut quand même déclarer les cryptos, même si on ne les a pas encore transférés sur notre compte en banque, c'est ça ? C'est-à-dire que même sur notre plateforme d'échange crypto, il faut quand même les déclarer, ces gains-là, même s'ils ne sont pas encore virés sur notre compte en banque.
Absolument. Ce qui compte, c'est vraiment la date du trade crypto fiat.
Bon, et justement, tant qu'on est là-dessus, on a des questions, hein, notamment de Jean-Baptiste qui nous a écrit tout à l'heure. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous écrire. Quels sont les comptes à déclarer, finalement ? Qu'est-ce qu'on doit déclarer, Alexandre ?
Alors ça, c'est très important. En fait, indépendamment de la déclaration dont on vient parler, qui s'applique en cas de cession, il y a aussi une déclaration des comptes détenus à l'étranger. Donc si vous avez un compte d'actifs numériques auprès d'une société qui n'est pas domiciliée en France, il faut porter l'existence de ce compte à la connaissance de l'administration. Et là, ça se fait via un formulaire dédié dans la déclaration, qui est le 3916 bis. Et sur cette déclaration, on doit indiquer les coordonnées de ce compte, le mail qu'on utilise pour se connecter au compte, mais pas les montants et pas l'historique des transactions.
Si le compte en question est français, il n'y a pas besoin de le déclarer ?
Exactement. En fait, si le compte est français, c'est pas nécessaire. Si c'est une plateforme étrangère qui a installé une filiale en France, c'est plus nécessaire en principe. Et si c'est un compte non custodial, c'est-à-dire quand l'utilisateur détient lui-même ses clés privées, type un Ledger ou un MetaMask, Ça non plus, c'est pas à déclarer pour le moment.
Ah justement, bah Jean-Baptiste nous demandait aussi, est-ce qu'il y a des comptes à ne pas déclarer? Finalement, c'est quoi? C'est que les comptes d'exchange centralisés, domiciliés à l'étranger, qu'il faut déclarer?
Exactement. Voilà, c'est les comptes auprès de sociétés qui détiennent des cryptos pour notre compte finalement.
Bon, et puis il y a aussi ça, s'il y a pas mal de gens qui nous écoutent, qui passent pas mal de temps à trader des cryptos, à en acheter, à en vendre, à investir, à partir de quel moment on peut être considéré comme un trader professionnel, comme un professionnel de l'investissement? Parce que je crois, Alexandre, que l'imposition n'est pas la même dans ce cas.
Exactement, l'imposition est beaucoup plus importante et le reporting comptable est beaucoup plus exigeant. Mais en fait, il faut se rassurer parce que c'est vraiment une infime minorité de personnes qui vont être concernées par une potentielle requalification. L'administration fiscale l'admet, elle l'écrit noir sur blanc dans sa doctrine. C'est des cas très très exceptionnels où finalement on retrouve deux critères principaux. Des opérations d'une certaine ampleur, et donc c'est relatif, mais on va regarder les volumes, les gains, le nombre de transactions, le temps que ça peut prendre à la personne.
Mais ça veut dire quoi? On a des chiffres là-dessus, ou alors c'est un peu subjectif?
Aucun chiffre, mais si vous voulez, en jurisprudence, sur les opérations de bourse classiques, on a des exemples où c'est des gens qui avaient des volumes de plusieurs milliards d'euros. C'est vraiment, cas très 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 rare. Et le deuxième critère important, c'est la sophistication des moyens. Et donc, en plus d'avoir un volume et des montants importants en jeu, il faut utiliser des méthodes qui pourraient s'apparenter à celles d'un professionnel. Alors, en crypto, c'est un peu difficile de faire la différence puisque les outils sont mis à disposition de tous, finalement. Et donc, faire des trades avec un peu de levier de temps en temps, ça fait pas de vous un professionnel. Mais il faut avoir une approche sophistiquée du risque, potentiellement emprunter des fonds pour pouvoir les investir, faire beaucoup de leviers. Enfin,
bon, ce que vous nous dites, c'est que la plupart des gens ont une certaine marge, finalement. C'est quand même un nombre assez limité de personnes que ça concerne.
Oui, pour moi, la marge est quand même très très importante. Et pour l'administration fiscale aussi, hein, c'est écrit, ils reconnaissent le caractère exceptionnel de cette requalification.
Bon, et Alexandre, on peut gagner de l'argent en investissant en crypto, mais malheureusement, on peut aussi en perdre. Il y a Cyril qui nous écrit, pour les moins-values, quel impact? Comment c'est imposé? Est-ce qu'il y a un report possible des moins-values?
Ça, c'est la réelle injustice du régime fiscal sur les cryptos. Contrairement à tous les autres régimes fiscaux, les moins-values réalisées au cours d'une année ne sont pas reportables sur les plus-values de l'année suivante. Et donc, une moins-value, finalement, c'est une perte sèche sur le plan fiscal, puisque elle peut pas être imputée sur d'autres types de gains, même pas des plus-values sur actions, et elle peut pas être reportée les années suivantes, ce qui est un peu dur à justifier au regard des autres régimes.
Mais justement, dans la justification des plus ou moins values, Alexandre, comment on fait? Quel document? Voilà, on est un particulier, on a acheté, vendu ses cryptos, etc. Comment est-ce qu'on fait pour les justifier au fisc? Alors même si on note nous, quelle preuve tangible il faut apporter? Comment ça marche?
Le problème, c'est que l'information n'est pas normée encore en matière de crypto. Il n'y a pas de relevé bancaire ou d'équivalent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir une très bonne hygiène numérique, sauvegarder tous ses historiques chaque année, avoir un bon mapping de tous ses wallets et produire ce qu'on a en fait en cas de contrôle. Sachant que l'administration n'est pas dupe, un tableau Excel historique, l'administration sait ce que ça vaut. Et généralement, en cas de contrôle, le fisc fait des recoupements en demandant directement des informations auprès des plateformes d'échange.
Bon, merci Alexandre, restez en ligne avec nous. Grégory, vous avez une réaction?
Moi j'avais une question en fait pour Alexandre.
Ah, une question, allez, on vous écoute.
Non, parce qu'en fait beaucoup de personnes ne veulent pas se fatiguer à faire cette déclaration-là en fait, et disent que le jour où ils auront suffisamment d'argent, suffisamment de plus-value et qu'ils voudront faire un cash-out, à ce moment-là ils appliqueront la flat tax de 30% sur le montant qui virent sur leur compte. Est-ce que c'est une bonne stratégie de faire ça, ou est-ce qu'il y a des meilleurs moyens?
En fait, je comprends. Peut-être pour expliquer, l'idée de ces gens est d'éviter d'avoir à calculer la valeur globale du portefeuille à la date de chacune des sessions. Et dans ce cas-là, s'ils ne le font pas, effectivement, l'impôt est dû sur la totalité de la session. On considère que 100% de ce qui a été vendu est de la plus-value. On ne diminue pas l'investissement initial. Ça, fiscalement, disons qu'on préjudicie pas le fisc, donc ça pose pas de problème en soi. Le problème, c'est si ensuite il y a des opérations qui impliquent de mettre à jour le prix d'acquisition du portefeuille. Dans ce cas-là, ça peut être dérangeant. Mais quelqu'un qui a fait une énorme plus-value et pour qui finalement déduire le prix d'acquisition de l'investissement initial n'est pas intéressant et prendrait trop de temps finalement, prendrait pas trop de risques à faire comme je viens d'expliquer Grégory.
Grégory, ça vous convient? Vous avez d'autres questions ou...
Non, c'est parfait. Non.
Ok, parfait. Bon, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions et puis vous écrivez-nous, hein, n'hésitez pas à le faire, comme pas mal de gens l'ont fait aussi. Grégory, bah, d'ailleurs, on va continuer avec vous. Une fois que votre dossier, malheureusement, hein, s'il y a eu des soucis et qu'il arrive chez le fisc, c'est quoi les moyens à disposition du fisc pour travailler, tout simplement? Vous avez commencé à l'aborder tout à l'heure.
Bah, c'est très simple, hein, le fisc il va contacter les plateformes d'échange pour demander des détails, hein, sur le compte du client pour vérifier son activité. Et si effectivement, bah, voilà, il y a plein d'opérations où on voit qu'il y a du cash out et que ça n'a pas été porté à la connaissance du fisc, bah, c'est là qu'après on part un peu dans la lessiveuse et qu'on se fait rattraper par la patrouille. Mais aussi le fisc, hein, comme beaucoup d'agences en France qui sont liées aux aspects financiers, ils disposent d'outils d'analyse on-chain, donc de type chain analysis. Donc c'est des outils en fait qui permettent de retracer toutes les transactions réalisées par quelqu'un, toutes les plateformes sur lesquelles il est allé, et du coup tu vois, quand on dit que les cryptos sont anonymes, c'est totalement faux en fait, parce qu'on peut totalement retracer, et l'État, le fisc a ces moyens-là à leur disposition.
Alexandre, justement, dans cette alors Grégory a en partie répondu à la question, mais il y a Cyril qui nous demandait, qui m'a écrit et qui m'a dit: le fisc a-t-il accès à mes opérations? Alors, par rapport à ce que vient de dire Grégory, c'est vrai qu'il peut utiliser des outils comme Chainalysis, mais est-ce que les plateformes sont censées être coopératives et dévoiler toutes les opérations qui ont été faites avec elles par leurs clients, par exemple?
Alors, en France, oui, puisque si elles ne coopèrent pas, elles peuvent être sanctionnées d'une amende. Donc, elles n'ont pas le choix. Hors de France, en fait, ça va dépendre des accords de coopération entre la France et les États concernés. Et donc, généralement, la France a un très grand réseau d'accords, mais parfois, ça peut prendre très longtemps. Enfin, dans certains pays, par exemple, il faut passer devant un juge avant de devoir communiquer à un tiers des informations privées. Donc, ça peut prendre plusieurs mois, voire parfois des années. Donc, en principe, oui, mais ça peut être long.
Bon, et donc, en fait, ça, Grégory, ouais.
Il me semble que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, Kraken, donc la plateforme d'échange américaine, avait publié un peu des statistiques, hein, sur toutes les demandes que la plateforme recevait de la part de différents États. La France était en bonne place. Kraken est une plateforme américaine, donc il y a des échanges quand même assez évidents entre les États-Unis et la France. Après, je pense que si vous êtes sur une plateforme asiatique, à mon avis, les choses se font un peu plus lentement. Mais pour ceux qui utilisent Kraken, Coinbase, ça va relativement vite.
Bon, donc finalement, les échanges, en tout cas, se font entre les plateformes et le fisc français, a priori. Je propose qu'on fasse un petit point quand même sur ce qu'il en est au niveau du stacking. Il y a notamment Néo qui m'a écrit sur X et qui avait des questions là-dessus. Alexandre, donc le stacking, on rappelle rapidement ce que c'est. C'est quand on délègue certains de nos tokens pour sécuriser certaines blockchains, on peut recevoir, dans certains cas, des récompenses en crypto. Donc, on les reçoit gratuitement, je mets des guillemets, parce qu'on délègue quand même des tokens, donc on prend un certain risque. Mais qu'en est-il de l'imposition de ces rendements passifs en staking?
Alors là-dessus, il y a la théorie et la pratique. En théorie, il faudrait pouvoir valoriser en euros ces récompenses et les déclarer en revenus non commercial au titre de l'année de réception, même si les récompenses sont pas vendues en fiat. Ça, c'est la théorie, c'est pas tellement ce qui est appliqué en pratique. En pratique, les gens l'intègrent dans leur portefeuille d'actifs numériques à zéro, donc ne font rien au titre de la réception de ces récompenses, et les déclarent comme des plus-values d'actifs numériques au titre de l'année de cession en fiat. Et ça, c'est quelque chose qui a probablement évolué, puisque en fin d'année 2023, un amendement a été déposé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, et l'amendement visait justement à consacrer l'imposition dès l'année de réception. Il a été retiré parce que les autorités se sont rendues compte que ça allait générer beaucoup de questions pratiques. Quand valoriser? Est-ce qu'il faut le faire chaque jour? Est-ce qu'il faut le faire à chaque bloc? Est-ce qu'on peut tolérer de le faire chaque semaine ou chaque mois?
C'est ça, c'est très très compliqué parce qu'en fait, ces récompenses, elles sont en crypto. Les cryptos, c'est quand même assez volatile, donc ça dépend. Voilà, à quel moment on valorise ça. Et du coup, Alexandre, là-dessus, on en est où? Vous pensez que ça pourra être appliqué, ça? C'est que repoussé puis ça va être appliqué?
Je pense qu'on peut aboutir à quelque chose qui ressemblera à ça, mais en plus simple, du type, une valorisation par mois de toutes les récompenses et une déclaration annuelle en euros. Donc l'amendement a été retiré pour l'instant dans l'attente de trouver justement un mécanisme viable pour les contribuables.
Et même
je pense que ça va revenir.
Ok, très clair. Même question pour les fameux airdrops. Donc les airdrops, pour ceux qui ne verraient pas ce que c'est quand on délègue des tokens à certaines blockchains, qu'on fait certaines actions, certains protocoles vont nous donner en récompense une somme de tokens. Donc bon, sur le principe, c'est un peu des tokens entre guillemets, je dis bien, qui tombent du ciel. Même question que pour le stacking, on en est où de la fiscalité des airdrops?
Alors là-dessus, on n'a aucune précision de la part de l'administration fiscale. Et le problème, c'est qu'il y a une multitude de situations différentes qui peuvent avoir différents impacts sur le plan fiscal. En fait, il y a une grande différence entre la personne qui est un développeur et qui a beaucoup généré de lignes de code pour toucher le airdrop Starknet et quelqu'un qui utilise trois fois un protocole et bénéficie d'un airdrop sans avoir passé grand-chose. Dans un cas, on pourra assimiler le airdrop comme une sorte de revenu d'activité. Dans l'autre, on pourrait presque l'assimiler à une sorte de gain de jeu non imposable. Mais entre ces deux extrêmes, il y a plein de situations différentes et aucune précision de l'administration à ce jour, malgré les montants assez importants perçus.
Donc c'est un peu la même question qu'on avait aussi pour le trading tout à l'heure. C'est est-ce que c'est une activité professionnelle ou pas, quoi? C'est un peu ça.
C'est un peu la même logique.
Grégory?
On peut avoir une pensée pour nos amis du fisc qui ne doivent pas s'amuser tous les jours avec ces nouveaux termes, ces nouvelles techniques, et ça change constamment. Donc il faut savoir s'adapter, quoi.
C'est clair que ce n'est pas évident. Et justement, Grégory, vous qui êtes notre enquêteur du fisc du jour, si vous faites l'objet d'une enquête, si vous êtes l'heureux élu et que le fisc veut faire une enquête sur vous, est-ce que ça peut arriver à tout le monde?
Oui,
ça a des critères.
Bien sûr, ça peut arriver à tout le monde. Mais après, le fisc, c'est presque un peu comme une entreprise. Il faut que ça vaille le coup financièrement de lancer une enquête sur quelqu'un. Si c'est pour 200 euros et que l'enquête va prendre plusieurs jours de recherche, je doute qu'on ouvre vraiment le dossier. Par contre, si on parle de dizaines de milliers d'euros, oui, ça vaudra peut-être le coup qu'un inspecteur du fisc se prenne votre dossier individuellement. Mais il y a quelque chose qui va changer, c'est la directive européenne DAC8, donc qui a été votée en fin 2023 et qui va instaurer l'échange automatique d'informations pour toutes les plateformes d'échange crypto qui sont en Europe. On l'a vu avec Alexandre il y a pas longtemps. Si vous êtes une plateforme d'échange par exemple autrichienne mais qui adresse le marché français, Si le fisc veut des renseignements, il doit être proactif et il doit s'adresser à la plateforme d'échange pour avoir les informations. Là, ça va s'inverser. Les plateformes d'échange vont devoir envoyer automatiquement toutes les informations qui concernent un client qui est français. Et donc, on va l'envoyer automatiquement au fisc français.
Donc, ça devrait être beaucoup plus efficace, finalement.
Ça devrait être très, très efficace. Et si tout est automatique, il n'y a plus vraiment besoin de faire d'enquête. Donc, même quelqu'un, potentiellement, qui juste essaye de frauder 200, 300 euros, enfin, un peu plus, parce qu'il y a une exception jusqu'à 305 euros, mettons 1000 euros, cette personne-là aura de fortes chances de se faire attraper. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça sera, ça entrera en vigueur. Il me semble que c'est 2025 ou 2026, peut-être qu'elle Alexandre aura des détails là-dessus, mais c'est pour très bientôt.
Alexandre, on a fini, mais je ne sais pas si vous voulez réagir en quelques secondes à ce que vient de dire Grégory.
Oui, c'est les dates qui sont prévues et il y a le corollaire international, puisque là, DAC8, les États membres de l'Union européenne, il y a aussi CARF, donc au niveau de l'OCDE, qui réunira beaucoup plus de pays que le simple territoire de l'UE.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alexandre Loribi, donc avocat associé chez Orwell Avocat. On n'a pas pu répondre encore à toutes vos questions, mais on ne vous oublie pas, on reparlera de ce sujet, bien évidemment, dans les semaines qui viennent. Merci d'avoir été avec nous, Grégory Raymond, cofondateur de Bigwell et directeur de la recherche. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain 15h pour les pros des cryptos.
BFM Business, BFM Crypto, le club.